Bonjour, c'est François Allais et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. J'ai la conviction que chaque entrepreneur possède une histoire, que chaque entrepreneur a dû faire des choix et a pris des risques pour réussir, et que chaque entrepreneur a franchi un cap dans son business grâce à des rencontres. Aujourd'hui, nouvel épisode avec Antoine Boyon, Serial Entrepreneur dans la e-santé. Pionnier dans la téléconsultation, Antoine Boyon lança une première start-up en 2013, French Medicine. Ce fut le premier service de téléconsultation médicale à destination des expatriés et francophones. 2 ans après, fort de sa première expérience et toujours dans une volonté de moderniser le secteur de la e-santé, il créa Epiderm, le service leader de la télédermatologie en France. Accompagné notamment par The Family, qui avait des parts dans sa start-up, il côtoya de jeunes pépites comme Backmarket, et il sut développer sa culture entrepreneuriale dans cet écosystème bouillonnant. En avril 2018, après plus de 2 ans et demi d'aventure, Visiomed Group fit l'acquisition de la société. Quelques mois après ce rachat, il décida à nouveau de créer un projet dans l'e-santé, Ambulise, la plateforme de régulation des transports sanitaires. Avec cette start-up, la volonté est de mettre à disposition des outils simples qui simplifient le processus de réservation et de suivi des commandes afin de gagner en efficacité. Outre Ambulise, Antoine a cofondé Ease Studio, un créateur de projets autour de la e-santé et du bien-être. Le but, apporter des compétences et de l'expertise à des porteurs de projets dans ce secteur. Dans cet épisode, on parle de son expérience entrepreneuriale, du fait d'arriver dans un secteur sans y avoir aucune expérience, de e-santé ou encore de l'écosystème startup et du bullshit qui tourne autour de celui-ci. Merci Antoine pour cet échange particulièrement intéressant et pour ta vision de l'entrepreneuriat. Excellente écoute à tous et à très vite. On se retrouve début juin pour un nouvel épisode. Salut Antoine.
Salut.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast.
Avec plaisir.
Donc toi, tu es un entrepreneur principalement dans la health tech, donc dans la santé.
Oui. La
première question que je pose toujours, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre ?
À entreprendre ?
Ouais.
Qu'est-ce qui m'a motivé à entreprendre ? En fait, je crois que c'est assez simple, je crois que j'ai pas eu trop le choix.
Ouais.
Et j'ai fait en sorte de pas me donner le choix. En fait, j'ai pas spécialement brillé dans mes études. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mais mon père et ma mère étaient tous les deux entrepreneurs. Voilà, donc j'ai pas spécialement brillé dans mes études. Et quelque part, j'ai pas eu trop le choix que de me débrouiller un peu par moi-même pour avoir le job que je voulais, pouvoir faire les choses que je voulais dans ma vie. En fait, quelque part, c'est... Enfin, voilà, je me suis un peu contraint à le faire. Et du, okay. du coup, je me pose pas trop la question. Voilà.
Très bien. Et du coup, en 2013, t'as cofondé French Medicine.
Ouais.
Donc dans le secteur de la santé.
Ouais.
Qu'est-ce qui a fait justement que tu es arrivé dans ce secteur ? Parce que c'est un secteur quand même ultra complexe, on va dire.
Ouais. Ouais. Bah, en fait, c'est un pur hasard. Vraiment, enfin, c'est un pur hasard. Disons que
c'est encore un hasard.
Ouais, disons que j'ai plutôt travaillé dans le secteur de la construction, de l'énergie par le passé, avant d'aller dans le secteur de la santé. Donc, c'est deux sujets qui ont strictement rien à voir. Et j'ai fait la rencontre par des amis de deux chirurgiens qui m'ont parlé d'un projet innovant dans le secteur de la santé. Et donc moi je connaissais rien à l'innovation, rien au numérique et rien à la santé. Et je crois qu'en fait c'est pas mal de rien connaître, parce que du coup tu te lances comme ça dans une aventure où tu connais pas forcément le secteur, tu vas le découvrir, donc t'as pas peur au début de tout ce que ça peut représenter. Moi j'avais pas peur de pas être légitime, etc. Enfin, je me suis lancé billet en tête, et c'est un secteur dans lequel en fait il y a beaucoup de trucs à faire, beaucoup de choses à faire. C'est un secteur qui marche, enfin, en fait aujourd'hui il faut être assez humble dans ce secteur, parce que globalement le secteur de la santé en France, ça fonctionne aujourd'hui. Les soins fonctionnent, les hôpitaux fonctionnent. On a un système de santé qui marche bien. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des choses à pouvoir. On peut améliorer des choses à la marge, notamment en fait sur les coûts. C'est-à-dire que il y a des dépenses qui sont faites, qui peuvent être optimisées. Enfin voilà, il y a des choses à traiter. Et c'est un secteur qui était au départ assez, c'est assez fermé comme secteur. En fait, Enfin, c'est pas évident d'y rentrer en fait. C'est-à-dire que si t'es pas médecin toi-même ou si t'as, si dans par ton réseau tu connais pas forcément beaucoup le truc, et eh ben c'est pas forcément évident d'y rentrer. Mais là, c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a plein de nouveaux entrepreneurs maintenant qui arrivent sur le secteur, qui prennent des problématiques et voilà, qui les traitent quoi.
Ok, et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à créer French Medicine?
Alors, bah, c'est de la rencontre avec les deux chirurgiens. On a discuté, on a échangé. Il y avait une problématique d'accès aux soins, c'est-à-dire que French Medicine, en fait, c'était un service de télémédecine qui était dédié aux expatriés et aux populations francophones, mais à l'extérieur. Voilà, donc tout. Par contre, c'était tourné vers l'extérieur, hors de la France,
Ok.
hors de la métropole. Et le problème qu'on a essayé de résoudre sur French Medicine, en fait, c'est de comment amener des soins de médecine en France, enfin de médecine française, sur des territoires où ils n'avaient pas forcément accès à cette expertise ou à cette culture. Parce qu'il y a des territoires en fait où tu peux avoir des soins de très bonne qualité, simplement c'est pas la même culture que toi. Par exemple, demain, si tu es expatrié à Hong Kong, et ben, tu seras peut-être content de parler à quelqu'un qui partage la même culture que toi, la même culture médicale.
Sûr.
Voilà, ça aussi c'est intéressant. Et donc French Medicine, en fait, l'intérêt pour c'était de proposer des services de télémédecine à des expatriés ou à des populations francophones. On a travaillé sur ce sujet pendant un an. Et c'est à la suite de ça, en fait, que j'ai décidé de faire des pivots, en fait, un premier pivot sur cette activité.
Ouais.
Et de créer un service qui s'appelait Epiderme,
Oui,
qui
on en
se dé
parlera.
voilà, qui se dédie à une spécialité.
Ok, donc en plus, par rapport à ce secteur, on parle quand même beaucoup du syndrome de l'imposteur, dans le sens où justement, tu arrives dans ce secteur sans aucun background dans la santé. Et toi, du coup, tu l'as pas du tout eu, ce syndrome. Est-ce que tu as eu des freins quand même, justement, le fait de vendre une start-up dans la santé, mais d'avoir aucune expérience dans ce domaine?
Bah, tu fais plein d'erreurs au début, tu connais pas les codes, donc tu fais des erreurs. Après, moi j'ai toujours fait du business, enfin en tout cas enfin du business. J'ai toujours été dans le contact client en vente, en vente ou donc quand j'ai arrêté mes maigres études, j'ai tout de suite démarré. J'étais commercial. Je faisais de la vente en particulier, des ventes assez dures, hein, de la vente en one shot, bref. Et tu apprends quand même pas mal à comment te comporter dans plein de situations. Donc après, c'est toi qui tu es aussi, de la façon dont tu te comportes. Si tu as un peu d'humilité en toi, en fait, au début, tu écoutes beaucoup, quoi. T'es vraiment là pour. Enfin, faut vraiment pas donner de leçons. Tu es déjà là, un, pour prendre des infos, voir comment ça fonctionne et voir si tu as compris les enjeux et si tu es capable d'essayer de détecter des opportunités pour essayer de trouver des problèmes et d'y répondre. Donc, au début, la question de l'imposteur, en fait, bah oui, clairement, enfin voilà, il faut surtout être là pour prendre de l'info, en capter. Donc,
Doucement.
d'y aller doucement, de en fait, enfin, ce qui est important, c'est de dire ce que tu fais, comment, dans quel état d'esprit tu le fais. Donc si tu dis, bah voilà, moi je suis entrepreneur dans le secteur de la santé, mais j'y connais rien et je suis là pour apprendre, j'ai envie d'apprendre. Et si tu te positionnes comme ça avec tes interlocuteurs, en fait, globalement, les gens sympathiques vont adhérer et vont prendre le temps de discuter avec toi. Mais voilà, c'est un peu la méthode que moi j'essaie de m'appliquer, quoi.
Ok, donc il y a eu une certaine bienveillance quand même des professionnels de santé vis-à-vis
Ouais,
de cette solution.
certains, pas tous, la grande majorité, ouais. La grande
Ok.
majorité des gens, ils sont normaux, bienveillants. Et après, il y en a qui sont un peu plus durs, il y en a qui n'ont pas trop envie
Oui,
de te parler et tout, mais bon, bah, ça, c'est la vie,
c'est la
quoi.
vie. Ouais.
Ouais.
Et ça a donné quoi du coup cette solution?
La solution, en fait, très vite, en fait, j'étais pas très aligné, moi, je me suis aperçu que j'étais pas très aligné avec les intérêts des deux chirurgiens avec qui on a monté la solution. Je me sentais un peu seul, moi, sur le projet. Et puis, je voyais surtout que la problématique qu'eux voulaient adresser n'était pas forcément celle en laquelle moi je croyais, enfin l'opportunité que j'avais identifiée. Donc, j'ai décidé d'arrêter avec eux. et de monter ma boîte sur le secteur du, de la dermatologie, donc Epiderm.
Ouais, ok. Donc Epiderm, donc c'est le premier, le service leader de la télédermatologie en France.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Donc en 2015, ouais. Donc quand même un peu avant-gardiste sur ce sur cette ouais. thématique-là.
Ouais.
Justement, ça a été quelles ont été les difficultés pour lancer ce service ?
Nombreuses. En gros, la difficulté qu'on a eue sur Epiderm, c'est que déjà on a identifié pourquoi on a créé Epiderm, c'est que le pain point qu'on essaie de résoudre, c'est qu'il y a des difficultés d'accès aux soins en dermatologie. C'est évident. Que tu sois à Rennes, à Saint-Etienne, à Lille, même à Paris en fait, ou en région parisienne, tu as des délais d'attente qui sont assez forts. Donc c'est le postulat, c'était de dire ok, essayons de trouver une solution qui permette de réduire ce délai d'attente. Donc ça c'était le premier point. La difficulté qu'on a aujourd'hui en dermatologie aussi, c'est qu'il y a un nombre de médecins, il y a 3500 dermatologues aujourd'hui, et le chiffre va diminuer en fait dans les années qui viennent. C'est-à-dire que la pyramide des âges fait son œuvre, et en gros, on va avoir pas mal de médecins qui vont partir en retraite, qui vont pas forcément être remplacés. Mmh. Et ça, c'est aussi un sujet. Donc ça veut dire qu'il y a un sujet actuellement, donc il y a un problème, et en plus potentiellement, ce problème est en croissance. Et tout de suite, on avait identifié la télémédecine comme étant potentiellement une réponse à ce problème. Donc là, maintenant, en 2019, on voit que le truc est très avancé, que ça bouge et tout. Mais il faut savoir qu'en 2015, globalement, moi, les freins qui m'étaient opposés, c'était par les médecins. Hein, c'était que c'était impossible de faire de la médecine par télémédecine.
Okay.
Que c'était impossible, que on allait tout casser, etc. Et en fait, qu'est-ce qui était exprimé à l'époque, c'était une peur de voir des nouveaux interlocuteurs. Pourquoi en fait moi j'ai pas, en tant que dermatologue, en fait j'avais pas spécialement de problème, quoi. Enfin, c'est ce que me disaient les dermatos. Moi, écoutez, j'ai pas de problème, mon cabinet est plein. Bon, après oui, il y a les délais d'attente, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et pourquoi vous voulez que je m'emmerde à faire autre chose, quoi, et autrement. Et du coup, on avait un frein qui était côté médecin, qui était de dire potentiellement, moi, je vois pas l'intérêt pour moi. On a eu un frein plus large, c'est qu'on a eu même un syndicat de dermatologie qui nous a carrément, qu'elle nous a carrément mis des bâtons dans les roues à un moment donné, de façon hyper forte, en nous menaçant, enfin. En gros, ils ne voulaient pas que la solution existe. Ils ne voulaient pas que la télémédecine en dermatologie, ça existe, quoi. Ou alors, si ça devait exister, il fallait que ça passe par eux et non pas par des solutions extérieures. Après, on a dû vraiment évangéliser le marché. 2015, 2016, 2017, j'ai passé beaucoup de temps, moi, avec les autorités de santé, avec les influenceurs du monde de la dermato, avec le Conseil de l'Ordre des médecins. Pour évangéliser le marché, faire en sorte que la pratique de la télémédecine soit reconnue. Donc on a fait des publications médicales sur nos résultats, c'est-à-dire qu'on a été complètement transparent. On publiait systématiquement les résultats. Dès que quelqu'un nous posait une question, une autorité de santé nous posait une question, on lui répondait, on disait nous la télémédecine ça fait ça, ça répond pas à tout, mais on a toutes les datas, toutes les données, mais si vous voulez on vous les partage. Et je pense que chemin faisant, en fait, aujourd'hui, il y a une loi qui est passée en 2018. Aujourd'hui, la
télémédecine.
Exactement. Le remboursement se développe, etc. Les usages sont encore assez faibles et assez maigres. Mais je pense que je suis content d'avoir, je pense, un peu participé au sujet, quoi. Le time to market sur Epiderm aujourd'hui, il n'est pas bon. C'est-à-dire que si, a posteriori, en fait, si j'avais dû refaire l'histoire, je ne me serais pas lancé dans Epiderm en 2015, mais en 2018, quoi.
Ok. Et justement, Epiderm, quand tu l'as lancé avec des dermatos ou...
Ouais.
Ok, ouais. Justement, ça va.
Tout de suite, en fait, ce qui est génial, c'est que tu... Alors, tu as la grande majorité des gens, en fait, des dermatos qui ne voulaient pas voir le sujet, ne voulaient pas s'y intéresser. T'en as qui étaient fondamentalement contre, puis t'en as qui juste simplement ne voulaient pas s'intéresser. Mmh. Et en fait, tu vois, t'as vraiment ça représente exactement les courbes d'adoption des produits, quoi. C'est que tu as des médecins très early adopters, voire 3% des médecins qui sont les innovateurs, ceux qui vont franchir les barrières, qui peu importe en fait là où ça mène en fait, ils sont dans, dans l'évolution. Et ce qui est marrant, c'est que c'est en fait les médecins jeunes n'ont pas spécialement adhéré en 2015 à la télémédecine, tu vois. C'était juste des médecins qui avaient des dermatos en fait, qui avaient simplement l'état d'esprit d'innovation, de côté innovant, pas peur de prendre des risques, pas peur de se tromper, pas peur de faire quelque chose, de tester un truc où ils maîtrisent rien, où ils, pas peur de me parler à moi qui suis entrepreneur, pas peur de parler avec mes associés qui étaient ingénieurs. Et du coup comme ça on a recruté allez on va dire une dizaine de dermatos, fédéré une dizaine de dermatos qui avaient tous ce profil là et ils s'entendaient tous hyper bien parce que ben ils avaient tous la conviction de tester un truc, en tout cas de faire bouger les choses. On savait pas forcément où ça allait nous mener, mais en tout cas ils étaient hyper fiers de participer à l'aventure.
C'était des ambassadeurs de la solution.
Ouais, fait. C'est ça, des ambassadeurs de l'évolution. Ouais, et puis vraiment, en fait, ils s'éclataient à faire un truc différent de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils avaient vraiment, il y avait tous les âges, de tous les profils, mais ils avaient tous un truc en commun. C'est vraiment le pas peur de se tromper.
Okay.
Pas honte de se tromper parce que c'est quand même pas facile. De lancer un service innovant sur pour eux en fait, parce qu'ils avaient pas spécialement ils ont pas spécialement grand chose à gagner en plus dans cette histoire. Ils avaient juste envie de
transformer leur métier, quoi.
Ouais, exactement, intellectuellement en fait, de dépasser ce qu'ils étaient en train de faire et de tester un nouveau truc.
Ok. Et Epiderm, le business model, c'était quoi que le business model d'Epiderm?
Alors son business model, c'était un paiement à l'acte, à la consultation.
Okay.
C'était de l'ordre de 30 euros la consultation en ligne. Ouais. Le principe, c'était que tu pouvais te connecter. Tu avais une application et en même pas une heure, souvent tu avais un avis dermato sur la pathologie que tu avais. Donc tu envoyais des photos de ta peau. Des symptômes, donc tu t'envoyais les photos de ta peau et de ton problème, tu renseignais quelques symptômes et tu avais en une heure immédiatement la réponse d'un dermatologue sur ton problème, qui allait pouvoir t'orienter, te dire éventuellement quelle était la pathologie, comment elle se soignait, on a même identifié on a eu des suspicions de mélanome qui se sont avérées être effectivement des mélanomes par l'intermédiaire de notre solution. Donc en fait on a montré une valeur médicale assez intéressante et voilà, le business model, c'était un paiement à l'acte, paiement à la consultation. C'était pas remboursé par la sécu, ni par les mutuelles, parce que je considère que c'est en plus, moi je suis pas spécialement partisan du remboursement, parce que je considère que c'est quand même une médecine de confort. C'est que voilà, depuis chez toi tu peux consulter comme ça. Donc, c'est quand même du confort. Maintenant, là, aujourd'hui, la télémédecine, va y avoir des études d'impact, des études d'impact santé publique. Mmh. Et je pense qu'on rediscutera du remboursement peut-être dans les années qui viennent.
Ah, c'est clair. Et donc, vous n'avez jamais eu besoin de lever des fonds, du coup, pour Epiderm?
Si, si, bien sûr, on a eu besoin.
Vous avez levé des fonds?
On a eu besoin. Sur Epiderm, en fait, on n'a pas réussi à lever.
OK.
Le business model n'était pas...
difficulté de convaincre les investisseurs.
Le secteur de la santé en 2015, 2016, 2017
était encore aux prémices de ce qui peut se passer aujourd'hui.
Ouais, donc on a fait des levées de fonds, mais je dirais family and friends, quoi.
Okay.
Donc
de la love money.
De la love money, exactement. Ouais. Après, en fait, on allait closer une levée de fonds. Et puis c'est à ce moment-là en fait que j'ai eu une opportunité de vendre la boîte à un groupe plus large qui allait prendre en main le sujet. Et en fait j'ai saisi l'opportunité parce que je voyais bien que seul le projet allait être compliqué à faire émerger.
Donc, tu sentais que c'était le bon moment pour vendre?
Ouais, c'était une bonne opportunité. En fait, au départ, on a discuté de levée de fonds avec mon acquéreur. Mmh. Donc, il devait rentrer en levée de fonds. Et puis, très vite, en fait, on s'est plutôt orienté sur une vente.
Ok.
Ouais.
Et la vente s'est bien passée. C'était ce que les deux parties voulaient dans tous les cas.
Ouais. Ouais, ça a été très
pas,
rapide.
Pas de regrets par rapport
non,
à ça.
Non, 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 ça a été très, très rapide. En fait, alors, je me suis tourné vers d'autres acteurs aussi. J'ai eu d'autres propositions, mais qui étaient franchement rien à voir avec celles que j'ai pu avoir et avec celles avec qui on a fait affaire. Tout ça, ça s'est fait très vite. En fait, les bonnes affaires, elles se font vite, quoi.
Ouais.
Voilà, donc c'est plutôt. Voilà,
et ça existe encore, Epiderm, du coup?
Alors, Epiderm, ça a été intégré à un service qui s'appelle BeWell Connect, qui okay. est donc la boîte qui m'a racheté, c'est Visiomed. Mmh. Et aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont intégré à leur service qui s'appelle VisioCheck, mmh. qui est un service de téléconsultation médicale en pharmacie.
Okay.
Et a priori, le projet, c'était de l'intégrer à ce service, mais moi j'ai quitté la boîte il y a plus d'un an maintenant, donc je ne pourrais pas te dire exactement okay. où ça en est.
Très bien. Ensuite, donc l'année dernière, tu as cofondé Ambulize. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Ambulize?
Ouais. Quand j'ai quitté, en fait, alors j'ai accompagné Visiomed, leur preneur, pendant près d'un an. Pour aider justement à l'intégration du service Epiderm dans leur service à eux. Et puis ça m'a donné du temps pour chercher aussi et de voir ce que je voulais faire après dans le futur. Je me suis posé la question de quitter le secteur de la santé parce que bon voilà c'est si tu veux sur Epiderm j'ai quand même passé beaucoup de temps en évangélisation donc je me méfiais beaucoup de la latence et d'appréhension de l'innovation dans le secteur.
Ouais.
Donc c'est un secteur où il faut peut-être parfois plus, faut avoir du temps, en tout cas bien comprendre. En tout cas c'est un point de vigilance, c'est vraiment bien de comprendre à quel moment t'en es de la phase d'innovation et comprendre que peut-être que ton service que tu vas développer qui va être génial, mais peut-être qu'il va mettre des années avant de se déployer. Et ça, faut être hyper vigilant. Et je m'étais dit, ouais, la santé, c'est peut-être un peu galère.
Mais t'étais sûr de créer une nouvelle boîte, du coup?
Ah ouais, j'étais sûr.
J'étais
sûr de recréer une nouvelle boîte,
ouais.
C'est sûr.
Okay.
C'est sûr. Parce qu'en fait, c'est d'ailleurs assez marrant parce que quand j'ai intégré les équipes de Visiomed, du coup, j'étais ingérable. J'étais vraiment ingérable. J'étais ingérable. C'était... J'étais intégré dans l'organigramme, mais ça marchait pas du tout.
Oui, donc t'as quand même intégré leurs équipes après le rachat de.
Ouais, j'ai intégré leurs équipes et j'étais pas du tout capable de. Enfin, j'étais pas du tout capable d'être dans l'équipe. En fait, j'avais pas du tout envie de. Enfin, moi j'avais mon rythme, ma vitesse, ma vision des choses. Eux ils avaient la leur et ça marchait pas du tout quoi. Mm. Ça marchait pas du tout. On n'avait pas du tout la même vision. Puis après c'était des aspirations. Enfin moi je sais que voilà, j'aime être indépendant et
puis c'est compliqué aussi, je pense, justement quand tu as eu de grosses expériences d'entrepreneur, de revenir au salariat. Je pense que c'est du... du jamais vu en fait.
Non, enfin, je pense franchement, je pense pas. Ouais, je pense que c'est du jamais vu. En fait, globalement, les périodes comme ça de transition, elles marchent jamais vraiment très bien, quoi. Mm. En gros, enfin, moi, l'impact que ça a eu, c'est que à partir du moment où j'avais vendu ma boîte, je l'avais vendue. En fait, c'était.
Ouais, faut tourner la page.
Elle s'est tournée d'un seul coup le 12 février, le jour de la vente, terminé quoi. Enfin, en fait, dans ma tête, j'étais vraiment passé à autre chose quoi.
Okay.
Voilà. Et donc après, sur Ambulize, en fait, je me suis, en fait, le chemin faisant, j'ai vu pas mal d'opportunités dans le secteur santé quand même.
Tu t'es créé un réseau quand même.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
Ouais, exactement. Exactement. On a eu des beaux résultats sur Epiderm d'un point de vue santé publique, d'un point de vue. Enfin, on a vraiment bien bossé. Et voilà. Et du coup, en fait, j'étais en discussion aussi avec un groupe d'établissements de santé, qui est le groupe Vivalto,
oui.
Avec qui j'avais noué des relations. Et puis, par hasard, en fait, je tombe sur un article sur les transports sanitaires, sur la gestion des transports. Et donc tout ce qui concerne les ambulances, les taxis conventionnés, les VSL. Et c'est un sujet en fait qu'on voit d'actualité. On voit souvent un peu d'actualité là-dessus. On voit manque de transparence, parfois quelques dérapages de coûts, d'organisation. J'ai creusé un peu le sujet. Donc j'ai fait un peu de recherche pendant, pendant une semaine, j'ai fait des recherches. Et puis j'en ai tout de suite parlé aussi à ce groupe d'établissements de santé et à leur directeur. Et on a tout de suite compris qu'il y avait un truc à faire sur le sujet, que c'était un sujet d'actualité. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai itéré en mode. J'ai créé une LinkedIn page dégueulasse. J'ai mis une centaine d'euros en AdWords pour comprendre un peu quels étaient les mécanismes d'acquisition de trafic, etc. Et tout de suite, en fait, en une journée, je me suis fait défoncer de demandes. J'ai reçu 30 ou 40 demandes de transport. J'ai fait « Waouh !» En fait, ça mord bien, ça, ce truc-là. Et puis, de fil en aiguille, en fait, bon, j'ai compris que ce modèle d'acquisition, c'était pas forcément évident, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait un sujet. J'ai interviewé des transporteurs, j'ai interviewé des établissements. Et c'est là que le sujet, en fait, il a... Enfin, pour moi, ça a fait sens. Je me suis dit, OK, j'y vais, je fonce. On va créer cette boîte. Et Ambulise, aujourd'hui, c'est donc de la régulation de transport sanitaire. On aide les établissements de santé à gérer leurs missions de transport. On équipe aujourd'hui 24 établissements de santé en France. Et on gère des milliers de transports aujourd'hui pour le compte de ces établissements de santé. C'est un marché qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de changer. En fait, il y a des mutations qui sont en cours sur le marché. C'est un marché qui est hyper atomisé, qui est en train de se restructurer, de se consolider. La loi a changé. Enfin, il y a vraiment plein de sujets à traiter aujourd'hui sur ce secteur.
Ok. T'es toujours au démarrage d'un secteur, en fait. Entre Epiderm et ça, j'ai l'impression que tu es toujours...
Ouais, alors là, pour le coup, le time to market sur Ambulise, il est optimal. Okay. C'est-à-dire que la bascule, en fait, le sujet, il existe depuis vraiment un certain moment, quoi. La problématique d'organisation des transports sanitaires. En revanche, il y a eu une loi qui est passée en 1er octobre 2018 qui change l'organisation et qui, du coup... quelque part est l'opportunité pour nous de nous déployer. Ça veut dire que tous les établissements de santé en France ont réfléchi à leur mode d'organisation sur les transports sanitaires. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, nous, de... Tu vois, on onboard un établissement par semaine, voire plus maintenant, avec notre équipe. Et c'est le time to market est bon, quoi.
Ok, donc voilà. Super.
Ouais.
À côté de ça, tu as monté EAS Studio.
Ouais,
OK, très bien. Et qui est un startup studio du coup.
Ouais, exactement.
Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ?
En fait, ce que j'aime faire, c'est le démarrage des projets. J'aime bien la phase 0-20, on va dire.
Ouais.
De 0 à 20 personnes. Ambulise, moi je porte un peu Ambulise aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai il y a
t'es tout seul dessus du coup?
Non, on est une équipe de 8 aujourd'hui.
Ouais.
J'ai 3 associés sur Ease qui m'aident à piloter aussi Ambulise. Et puis on est en train de structurer toute l'activité. Ease, en fait, ouais, c'est quoi? C'est un startup studio. Enfin, on le présente comme ça, on dit que c'est un startup studio. La réalité, c'est que c'est aujourd'hui plus une société dans laquelle on investit soit dans des projets existants, soit qu'on crée nous-mêmes. C'est pas forcément un startup studio.
C'est peut-être plus un label de projet.
Ouais, c'est ça. C'est que c'est en devenir, si tu veux. Okay. Ce sera peut-être un jour un vrai startup studio, mais la réalité, c'est que aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est en devenir. Mais en tout cas, c'est une structure que j'ai voulu structurer comme ça. C'est que il y a des opportunités aujourd'hui sur le secteur de la santé. La prochaine, on est en train de lancer un nouveau projet qui s'appelle l'ENA. Et l'ENA, ce sont des centres de soins spécialisés autour de la peau. Ouais. Donc là, ça va faire écho avec Epiderm.
Totalement.
Mais là, pour le coup, c'est du brick and mortar, c'est des centres physiques de dermatologie qu'on va travailler différemment, aider les médecins à travailler différemment. Ça, c'est un besoin que moi j'avais identifié très tôt dans Epiderm. Et enfin, en tout cas, pas dans Epiderm, mais en tout cas en discutant avec les dermatos aujourd'hui. Mmh. C'est un projet qui est en train de se lancer et qui va voir le jour aussi, je pense, en 2020.
Ok. Et donc, c'est exclusivement des startups, du coup ? C'est pas d'autres projets, par exemple, je sais pas.
En fait, c'est quoi une startup ? En gros, c'est... C'est pour moi, ce qui définit la startup, c'est de la croissance. Mmh. C'est des boîtes qu'on veut avoir une croissance forte. Okay. Donc, même sur un sujet beaucoup plus brick and mortar comme l'ENA, où là, on est sur des centres physiques, ouais. Ce qu'on veut, c'est déployer un modèle scalable, enfin, scalable dans la limite du possible, en tout cas, dans lequel on va avoir un plan de développement où on veut
qui
ouvrir...
Qui va pouvoir accélérer voilà, très rapidement. Quoi.
C'est combien on passe de 1 à 2, à 3, 4, 5, à 10, 20, etc. Centre de centre de la peau.
Ok.
Donc, en ça, ce sont des startups. Ouais. Alors, moi, je vois pas mal de gens parler de dire « Ouais, moi, j'ai une startup. » Parfois, en fait, on n'a pas tous des business models startup. Mm. Et vraiment, pour moi, ce qui caractérise, c'est l'hypercroissance. Quoi.
C'est clair.
C'est
ça. Pouvoir dupliquer le modèle infiniment, en fait.
Ouais, exactement. Ouais, exactement.
Ouais, ok.
Et aussi, le fait que le business model que tu portes, souvent, en startup, c'est t'es toujours un peu en recherche de ton business model.
Voilà, c'est ça.
Tu vois, sur Ambulis, nous, c'est un sujet aujourd'hui, business model.
C'est quoi, du coup, le business model d'Ambulis ?
Eh bien, on est en train de le découvrir, en fait. Ouais. On est en train de le découvrir. Nous, ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est de capter les flux.
Pour le moment, c'est les établissements qui
c'est
payent.
C'est ça, ouais. Exactement. Ce sont les établissements qui payent. Pour voilà, exactement. Okay. Et on sait qu'on va évoluer dans notre business model, qu'on va en trouver d'autres, qu'on va augmenter nos revenus, qu'on va... Voilà, donc ces différentes phases de boîte, là aujourd'hui, c'est pas notre priorité, c'est pas clair, c'est pas forcément nos revenus aujourd'hui. Notre priorité, c'est d'onboarder les établissements de santé et il y aura une deuxième phase.
Ok. Dans ta carrière d'entrepreneur, est-ce que il y a eu des personnes, des établissements qui t'ont permis justement de franchir un cap dans ton business, de répondre à tes questions rapidement, enfin.
Ouais. Alors moi je m'étais fait pas mal accompagner au départ. Alors sur French Medicine j'avais fait le programme d'accélération RISE qui était un programme porté par Numa à Paris.
Oui.
Après j'ai fait avec Epiderm, on a intégré The Family qui était actionnaire d'Epiderm.
Okay.
Donc tout ça moi ça m'a fait ma culture, The Family m'a fait m'a éduqué. Mm-hmm. Comme Numa aussi parce que Numa on avait du mentoring avec des types qui avaient vraiment des personnes qui avaient vraiment de l'expérience.
C'était déjà Numa ou c'était le camping?
C'était déjà Numa. Ouais.
Déjà Numa.
C'était okay. Déjà Numa. C'est là, c'est, en fait, moi je me suis vraiment fait ma culture entrepreneuriale du secteur digital et numérique là-bas, quoi.
Ok.
Donc en faisant des super rencontres.
Bah oui.
Quand on a démarré sur French Medicine, en fait, on était dans la même promo que des boîtes comme Back Market, par exemple.
Ok. Donc la revente de téléphone, etc.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ok.
Qui est une super boîte. Et on a vraiment démarré côte à côte avec Thibaut et son équipe. Donc voilà, moi, je me suis appuyé un peu sur des structures comme ça. Il faut surtout comprendre. Moi, je sais pas, mais dans le mentoring, quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup mes parents qui parlaient, qui discutaient de leur business et tout.
Ils avaient quoi comme business?
Ils étaient coiffeurs.
Okay.
Enfin, ils sont coiffeurs, ils sont maintenant à la retraite, mais ils ont eu une chaîne de coiffure où ils avaient presque, je sais pas, une quinzaine de salons, un truc comme ça. Mm-hmm. Donc ça représentait près de plus de 100 salariés, enfin voilà.
Ouais, donc un truc solide.
Et donc j'ai connu les échecs, les succès, les galères.
Ouais.
Et enfin c'est là où mon disque dur il s'est imprimé de plein de contextes. Donc ça c'est plutôt ma chance en fait, c'est que tout de suite j'ai baigné dans des problématiques de commerce, de business et qui sont des problématiques de gestion. Et
puis de devoir s'en sortir finalement seul quoi.
Ouais c'est ça ouais, et puis surtout des problématiques aussi tu vois de management, de vision, parce que ben, quand, à partir d'un certain stade, en fait, je voyais que moi, la boîte de mes parents, elle avait évolué, qu'ils étaient beaucoup plus en tant que manager, ils sont passés de coiffeur à manager. Et puis, ils se posaient la question, est-ce qu'on ne va pas plus loin? Et voilà, donc, bref, toutes ces étapes, en fait, moi, j'ai l'impression de les avoir vécues avec eux. Enfin, elles sont vraiment ancrées en moi. Et du coup, ouais, après, j'ai quand même quelques mentors. J'ai discuté pas mal avec Joël Renaud, qui est PDG de Deltador, qui me suit encore maintenant et avec qui on échange. En fait, qui fait miroir, quoi. Je lui parle de mes problèmes. Et en fait, ça fait du bien de discuter. Parce que bon, globalement, les réponses à tes problèmes, c'est souvent toi qui les as, quoi. Faut pas attendre des autres.
Bon, c'est toi qui vas prendre les décisions et,
ouais, voilà,
et personne va le faire à ta place.
Exactement. Et après, il faut surtout être bien conscient que les business qu'on porte aujourd'hui ne sont pas les business
ça rien à voir
de
avec
nos parents.
Voilà, exactement.
Et que, en fait, aujourd'hui, il y a des mentors. Par exemple, moi je vois des mentors, des cadres, etc., qui sont mentors. Je me méfie vraiment, moi, de ce mentorat. Faut être hyper vigilant.
C'est clair.
En gros, faut bien comprendre les business dans lesquels on est. Idéalement, faut se tourner vers des structures d'accompagnement spécialisées digital, spécialisées dans ce qu'on fait, quoi, en fait, hein, dans les business scalables, dans les levées de fonds. Faut comprendre au jeu auquel on joue, quoi. Et il faut surtout, en fait, moi, ce que je me suis fait, c'est qu'il y a quantité de contenu sur Internet.
Bullshit.
Non, mais non, oui, il y en a. Alors là, oui, en plus bullshit, mais il y en a surtout de l'excellent contenu.
Ouais, c'est clair.
Dans les trucs qui pèsent, tu vois, genre Y Combinator, tu peux, vas-y, faut tout lire, tout regarder, quoi. Mm. C'est la crème de la crème, hein, du jeu auquel on est en train de jouer. Hein. Donc, faut vraiment se forcer à les regarder parce que les mecs sont super balèzes, quoi. Après, bon, c'est très californien comme attitude, mais ça contrebalance pas mal notre côté, tu vois, plutôt européen ou même français ou même breton, tu vois, pour toi et moi, quoi. Bon, ben, c'est pas mal à un moment donné de twister le truc avec justement quelques vidéos parfois californiennes où les mecs te font juste changer d'échelle, quoi. Et je te parle, enfin voilà, et puis quand tu vois les problématiques en Asie et tout, enfin les gens qui portent des projets, les échelles sont beaucoup plus grandes, les problèmes sont différents.
Quand tu vois notamment en fintech en Asie, enfin les solutions de paiement, etc., c'est des
qui lèvent
des milliards et des
Exactement. Mais en fait,
de malade.
Mais moi, je sais pas, j'ai l'impression de jouer à ce jeu-là aussi, tu vois. J'ai pas l'impression de subir cet environnement, au contraire, moi, il m'inspire vraiment, puis j'ai envie d'être dans le même. J'ai envie de jouer dans la même cour, quoi, et d'être aussi ambitieux que ces gens-là en Asie ou aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est ce qui caractérise les boîtes, je pense, qui réussissent même en France, c'est que les mecs sont hyper ambitieux, en fait. Pour réussir, il faut être ambitieux.
Bah, dans ton domaine, quand on voit Doctolib, par exemple, qui ne cesse de grandir et qui lève des sommes astronomiques et... qui ont quand même révolutionné un marché avec une solution finalement très simple.
Ouais. En fait, c'est dur de faire simple, c'est dur de bien faire quelque chose.
C'est clair.
Doctolib, la réussite de Doctolib, c'est déjà c'est l'équipe qui est solide, des gens inspirants.
Tu les connais
Non, pas personnellement, par des gens, on va dire assez proches, oui, mais en tout cas de tous les signaux que j'ai pu recevoir de Doctolib, tu vois, comme donc. Moi, je ne les connais pas personnellement, donc comme toi. On est inspiré par cette boîte, en fait. Il y a un truc qui se dégage. Et je pense que la culture est forte. Je pense qu'ils exécutent vraiment, ils ont exécuté de façon balèze leur projet. Il y a aussi une part de chance. Enfin, je pense que voilà, faut en discuter avec eux. En tout cas, c'est dès le début, les mecs sont ambitieux. Ils savent où ils veulent aller. Ils savent que le truc est gros, qu'ils peuvent aller chercher telle typologie de marché. Là, aujourd'hui, ce qu'on voit de Doctolib, je pense qu'il y a encore des... ils ont en tête encore d'autres sujets de développement et la taille de leur marché est costaud. Donc, ils ont su embarquer les bons investisseurs, les premiers bons salariés et employés avec eux. Et voilà, c'est une belle histoire, quoi. Ça m'inspire vraiment, ouais.
il y a d'autres startups justement, d'autres entrepreneurs qui t'inspirent outre le mentoring. Voilà, c'est plus de l'inspiration, tu vois, générale, je sais pas. Que...
Ouais, bah j'ai été hyper fan de Capitaine Train.
Ouais.
De leurs produits, du care qu'ils ont mis dans leurs produits, de la façon dont ils ont traité leurs utilisateurs. Ils nous ont vraiment. Moi, j'étais hyper. Je trouvais ça hyper intéressant. Et surtout, en fait, tu vois, que ce soit ou Doctolib ou Capitaine Train, c'était vraiment des fondateurs qui sont très. Qui ont pas mal d'humilité, quoi.
Ouais.
Qui n'ont pas besoin d'avoir trop de show, de. Enfin, pas des mecs.
C'est important, je trouve, aussi.
Ah ouais, carrément. Carrément. Capitaine Train, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme entrepreneur Thibaut, moi, de Back Market, je l'ai côtoyé. Ce qu'il a réussi à faire avec son équipe, je suis hyper admiratif parce que je crois que Back Market a dû lever en tout 50 millions. Ils sont déployés partout, presque partout dans le monde maintenant, peut-être pas en Asie. Mais me dire qu'il était là juste à côté de moi et que je voyais et je me dis putain chapeau, il a bien géré sa croissance et tout, ça m'inspire aussi. Non, après c'est pas, en fait c'est plus les personnes, donc dans l'entrepreneuriat ouais il y a des gens je trouve qui se démerdent bien. Puis après je vais être aussi inspiré par des je sais pas, des gens qui gèrent leur vie simplement, qui ont des talents, qui je sais pas moi, tu vois, des sportifs qui vont m'inspirer, des gens qui, tu sens que en fait leur vie se passe bien, qu'ils arrivent bien à la piloter et que qui se donnent qui sont ambitieux, qui se donnent des objectifs, qui les atteignent, ça m'intéresse. Bon après oui, franchement c'est clair, Elon Musk.
Après ça c'est le.
Bon voilà, tu vois.
La base.
Non mais bon, ouais. En fait, ce qui est cool dans Elon Musk, c'est le côté où le mec il a pas peur du ridicule, il a pas peur de se planter en fait, il en a rien à foutre quoi.
Et puis il a une façon de communiquer aussi bien à lui. Enfin, sur Twitter.
C'est ça, exactement.
Il a aucun.
Exactement. Et ça c'est quand même. En fait, quelque part ça te décomplexe vachement aussi.
C'est clair.
Bon après voilà, tu peux pas. Enfin comment tu veux te comparer à ce type là, c'est juste incroyable ce qu'il fait quoi.
C'est clair.
Enfin moi je trouve ça génial. Que lui il porte ce rêve, il dit putain moi je veux aller sur Mars quoi. Ah, c'est super.
Je veux démocratiser ça.
Ouais, c'est ça. Donc moi là pour le coup en fait globalement le mec tout ce qu'il fait m'inspire quoi, ça c'est clair.
Ouais, okay.
Il m'emmènerait, il serait carrément susceptible de m'emmener dans sa navette spatiale sur Mars.
Oui, tu serais partant pour aller sur Mars.
Ouais, parce que ça me fait marrer. C'est clairement le sens de l'histoire tout ça. Ça participe de l'évolution des choses. Je crois en rien vraiment de plus que juste l'humanité, elle doit se développer, elle doit bouger, elle doit continuer à innover, à faire des erreurs. Je suis assez optimiste là-dessus, donc voilà. Il y a tellement de trucs à découvrir que c'est génial.
Et le monde des startups, c'est un monde qui est devenu hype très rapidement.
Ouais.
Et puis qui, quand même assez récemment... vu qu'il y a eu beaucoup de bullshit autour de ça, le côté startup nation aussi, il y a de plus en plus de haine je trouve vis-à-vis des startups.
Ouais, mais c'est légitime en fait. Il y a tellement de gens qui racontent de la merde aussi que c'est, en fait, faut arrêter quoi. Faut arrêter. Enfin.
Mais tu vois, c'est con parce que enfin, dans ce monde-là, enfin, tout le monde n'est pas pourri, tu vois. Il y a quand même des entrepreneurs qui galèrent pour monter leur business.
Déjà, il y a des gens qui profitent de la méconnaissance du secteur pour prétendre disrupter des
voilà,
trucs, faire
ça.
De l'innovation.
J'aime pas ce mot, la disruption.
Mais ils sont juste là pour prendre le pognon.
L'ubérisation, ce genre de choses.
ouais. Mais en fait, bon, globalement, le secteur start-up, en gros, je pense que les organisations aussi... En fait, il y avait un vide. Moi, j'ai bossé chez Primagaz dans ma vie, donc c'était plutôt une grosse boîte.
Ouais.
Et c'était marrant parce que à l'époque, vraiment, le secteur des startups n'existait pas du tout, quoi, ou pas trop. Tu vois, c'était 2009 à 2011. Enfin, moi, je connaissais pas du tout, j'étais trop jeune. Quand on était jeune, en fait, nous, on se disait, tiens, putain, c'est cool, tu bosses chez Primagaz, putain, bien wesh, quoi, t'as réussi, tu rentres dans une boîte, tu gagnes ton salaire. J'avais un bon niveau de poste et tout. Et je m'éclatais, j'étais à Paris, c'était chouette. Et aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus du tout envie de travailler. Enfin, tu sors d'études, tu n'as pas du tout envie de travailler dans cette boîte. Tu n'as plus envie de travailler chez Conto, chez Back Market, chez Doctolib.
Ou alors de monter ta boîte.
Tu commences même à être exigeant en disant « Ouais, mais là, attends, chez Doctolib, je commence à y avoir beaucoup de monde. » Donc en fait, moi, j'ai bien retenu la leçon. Je pense qu'il faut que j'aille dans une start-up où il n'y a que 10 salariés. Comme ça, je vais avoir plus d'equity. Puis,
ouais, bon, c'est clair.
Mais... en fait, il faut surtout comprendre le jeu auquel on joue. Moi, c'est dur déjà d'entreprendre. C'est hyper dur. C'est franchement hyper dur. C'est
beaucoup le fait que voilà que 90% des startups meurent au bout de 5 ans.
Ouais.
C'est quand même un chiffre fort.
Ouais, c'est ça. C'est dur d'entreprendre. Faut être costaud. T'as plein de doutes, t'as plus de chances de te planter que de réussir quand même. C'est comme tu disais, la probabilité de réussir est bon. Après, avec l'âge, tu commences à avoir plus d'expérience et à faire moins d'erreurs. Mais c'est pas évident. En fait, il y a surtout un truc qui était terrible, c'est le baby-foot, quoi.
Ouais.
Le baby-foot, ça a été terrible.
C'est clair.
C'était terrible. C'est que tout le monde, à un moment donné, s'est dit « Ouais, putain, il me faut un baby-foot dans ma boîte et ça va être cool. » Et en fait, les gens ne comprennent rien de ce qu'on est en train de faire. Une start-up, c'est juste une boîte où on bosse beaucoup plus que les autres. Tout le monde est très engagé, très focus. On essaye d'exécuter avec peu de moyens et d'exécuter fort, d'y faire des itérations courtes pour pas... parce qu'on est tout le temps sur le fil du rasoir. À tout moment on peut exploser, donc faut sans arrêt faut jamais lâcher la pression de ce qu'on fait et donc c'est une organisation en fait, enfin faut venir hein, mais pour en avoir vu pas mal des boîtes, il y a les vraies startups, celles qui ont de la croissance, sont ces boîtes là où t'es tout le temps sur le fil du rasoir quoi, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est ça qui est génial en fait, c'est que tu célèbres, du coup tu vas célébrer quand tu as une victoire, quand tu rentres un client et tout, mais c'est... Enfin, je sais pas, nous, on est passé... En octobre, on avait un établissement de santé. Allez, 6 mois après, on en a 24. Mais quand je vois de où on est parti, la vitesse à laquelle on va aujourd'hui, c'est ça qu'on célèbre, en fait. C'est que c'est génial, quoi.
Et ouais, ça continue. C'est l'adrénaline.
C'est ça. Tu te nourris d'adrénaline, hein. Ouais. Exactement. Ouais. Et après, en fait, tu as tous les... T'as tout le, t'as tout l'écosystème startup. En fait, franchement, moi, j'y participe quasiment jamais, ça m'intéresse
et
pas.
Et ça peut faire aussi un peu zoo, tu vois.
Ouais, exactement.
Dans le sens où, startup, incroyable, tu vois. Alors que c'est juste finalement, c'est juste une phase d'une boîte qui veut innover, qui veut accélérer rapidement, en fait.
Ouais, c'est ça. Okay. En fait, globalement, j'ai pas trop le temps d'aller aux événements, j'ai pas trop le temps je pense qu'on communique pas assez sur l'extérieur, sur ce qu'on fait et tout, parce qu'en fait, on est vraiment en train de bourriner sur l'exécution. Donc voilà. Tu vois, même là, tu vois, l'interview, en fait, j'ai envie de te dire, c'est hyper rare, quoi. C'est vraiment un truc que...
Et t'avais refusé de faire le débat. Ouais. Faut le préciser, quand même.
Ouais. Mais voilà. Non, mais c'est clair.
Ok. Et à côté des rencontres, etc., de l'inspiration du monde des startups, c'est quoi les décisions que tu as prises dans ta carrière d'entrepreneur qui t'ont marqué ou qui ont été difficiles à faire? Est-ce que t'en as eu?
Bah ouais, ouais, plein.
Clairement,
ouais.
C'est quoi les plus marquantes, par exemple?
À chaque fois, en fait, c'est stop ou encore sur un projet. En fait, les décisions marquantes, c'est quand tu démarres. En fait, tu es toujours là en train de te dire, bon, est-ce que... En fait, tu regardes ta grille un peu. Enfin, on a tous, tu vois, une espèce d'une grille en interne où on se dit, OK, est-ce que j'ai coché toute telle et telle case? Est-ce que j'ai bien compris ce que j'étais en train de faire? Est-ce que je me suis pas planté? Est-ce que mon entourage me suit? Est-ce que c'est le moment de le faire? Parce que ça, c'est hyper important. Hein. C'est, ma famille aujourd'hui, ma femme, mes enfants, tout ça, c'est aujourd'hui, j'intègre ça ce que je vis et comment je travaille, quoi. Tes parents, tout ça, tu dois prendre en compte. Donc, le premier moment, c'est un, est-ce que quand tu te lances? C'est déjà ça, c'est à chaque fois, c'est un sujet. Les personnes avec qui tu t'entoures aussi, ça, c'est des grosses décisions. Donc, avec qui tu t'associes, comment tu le fais. Moi, je l'ai toujours fait un peu en mode feeling, quoi.
Ça se fait toujours comme ça. Enfin,
ouais, voilà.
La grande majorité des cas, de passer, feeling.
Voilà, c'est du feeling.
Tu t'entends bien avec la personne.
Ouais, tu t'entends bien. Voilà, c'est comme ça, effectivement. Il n'y a pas vraiment de recette. Stop ou encore ? Est-ce que les boîtes méritent de continuer ou pas ? Par exemple, quand j'ai décidé d'arrêter French Medicine pour faire Epiderm, c'était une vraie décision aussi. Ok, est-ce que je continue avec eux dans le cadre là, ou est-ce que je change de cadre ?
Ça, c'est les startups zombies un peu.
Les zombies startups. Ouais. Ouais. C'est que je pense que, effectivement, je lisais un truc tout à l'heure de Oussama Hamar qui disait les startups, en fait, faut les jeter de la falaise. Et puis, il y en a qui vont se démerder pour survivre. Et en fait, c'est ça moi je pense que c'est un super conseil. C'est jette-toi. Et puis au pire, si tu tombes en bas et que tu t'écrases, c'est pas grave. Parce que c'est un jeu en fait où tu peux recommencer. C'est comme quand on joue aux jeux vidéo, tu vois, game over, ok, bon bah je vais tester autrement.
Ouais.
Et en fait, c'est là où il faut être fort. C'est qu'il faut être fort en se disant, allez, c'est qu'un jeu, c'est pas grave, bim, je recommence. Et c'est là où parfois, dans ton entourage, c'est pas évident.
Ouais, c'est clair.
C'est-à-dire que. L'échec en France, machin, c'est en train de changer et tout. Ouais, sauf que en fait.
Mais encore loin.
c'est surtout les gens qui vous aiment, en fait, ils s'inquiètent vachement pour vous. Et du coup, vous le sentez. Donc c'est un truc d'ailleurs. Enfin, moi je sais pas, mais j'essaie vraiment de pas parler de ça à mes proches, quoi. J'en parle très peu au travail. J'en parle très peu à mes parents.
C'est compliqué de parler entrepreneuriat, encore plus startup du coup, justement à ton entourage, quand ton entourage ne fait pas du tout partie de ce milieu.
Ne fait pas partie de ce truc, donc ils savent pas trop ce que tu vis. Donc en fait, s'ils t'aiment vraiment, ils t'aiment en général, ton entourage t'aime, il faut leur dire, voilà, bah écoute, tu sais quoi, franchement aide-moi, et ben on n'en parle pas. Tu veux m'aider, on n'en parle pas. On parle de tout ce que tu veux et tout. Moi, je veux juste me détendre avec vous. J'ai envie de passer des bons moments. J'ai pas envie de vous parler boulot.
Okay.
Parce que, parfois, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Même tes potes, tout ça. Enfin, tu vois. Enfin, moi, je sais que j'en parle pas mal avec les gens qui sont dans la même situation que moi.
Tu te crées un écosystème.
Ceux qui sont entrepreneurs aussi, parce que forcément, tu vis les mêmes trucs. Mais tes potes qui sont salariés ou qui ont d'autres situations, ils ne mesurent pas, comme moi, je mesure pas non plus leurs trucs, hein, mais ils mesurent pas ce que nous, on est en train de vivre. C'est radicalement différent.
C'est un état d'esprit totalement différent.
Ouais,
quoi.
C'est ça. C'est ça.
Ouais, ok. Pour terminer ce podcast, donc deux dernières questions. C'est quoi ta définition d'un serial entrepreneur ? Puisque toi, tu es un peu considéré du coup comme un serial entrepreneur, mais dans la health tech, tu vois.
Ouais, moi j'avais entrepris même avant de me lancer dans la e-santé.
Ouais.
C'est quoi ma définition du serial entrepreneur ? C'est avoir monté plusieurs boîtes, d'avoir construit un truc.
C'est quand même quelqu'un qui est passionné par l'entrepreneuriat aussi, du coup.
Ouais.
Par la croissance, par je sais pas. Par...
Ouais, mais tu vois, est-ce que je suis passionné par l'entrepreneuriat ? Je crois pas. En fait, c'est vraiment sincèrement, je crois que j'ai ça en moi, que je me pose pas la question. C'est mon mode de fonctionnement. Mais j'ai pas du tout la passion de l'entrepreneuriat.
Okay.
Je crois que j'en ai même rien à cirer, en fait.
Okay.
Je sais pas, c'est juste que... Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, quoi ?
Ok.
J'ai aucun
diplôme. Après, tu vois, en termes d'objectifs, y aurait l'entrepreneur qui veut monter une boîte durable, je sais pas, qui a 20 ans, 25 ans, etc. Et un serial entrepreneur, ce serait plus quelqu'un qui, justement, va avoir l'opportunité d'un business... va lâcher son business actuel pour monter un nouveau business.
Ouais.
Tu vois ?
Ok. Effectivement, ouais. En fait, c'est vrai que j'aime bien il y a plein de sujets qui me passionnent. Et ce que je trouve génial aujourd'hui, c'est qu'on a l'opportunité de pouvoir travailler sur plusieurs sujets. Enfin, potentiellement, effectivement, au cours de ma vie, peut-être que j'aurai l'opportunité de travailler sur d'autres sujets encore.
Parce qu'aujourd'hui, tu es quand même étiqueté malgré toi e-santé.
Ouais.
Fait.
Ouais, mais ça me va, ça.
Est-ce que tu te verrais dans un autre domaine
Eh ben, écoute, ouais, j'en parlais avec un pote ce midi. J'adorerais ouvrir un bistrot.
C'est vrai ?
Ouais. Ah,
c'est cool. J'ai un pote qui a un bistrot et c'est cool.
Voilà, j'adorerais ouvrir un bistrot. J'aimerais bien faire la bouffe.
Ouais, carrément.
J'adorerais ça, en fait. Ça me rend hyper heureux.
Ouais, c'est cool. Et du coup, dernière question de ce podcast. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Alors, les entrepreneurs que je te conseille, c'est une très bonne question. Thibaut, votre Doc Market, moi j'aimerais bien qu'il nous raconte un peu, si je connais un peu son histoire, mais je trouve que c'est intéressant ce qu'il vit là, avec la croissance de sa boîte et tout le parcours qu'il a eu. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je réfléchis. Je pense que tous méritent. On mérite tous d'avoir de d'évoquer nos histoires en tout cas parce qu'elles sont toutes singulières quoi. C'est un peu une réponse, tu vois, bateau.
Bateau.
Mais... ouais, c'est ça. Ouais. Mais celle-là, je l'écouterai. Je pense le podcast de Thibaut, je l'écouterai.
Ouais. Ok, je vais le contacter alors. Okay. Très bien. Merci pour ton temps.
Ouais.
Et puis une prochaine.
Ça roule. Merci.
Ciao.
Et allez le Stade Rennais.
Allez le Stade Rennais. Ouais.